pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf, cinquième cassette, première face, page 152. L'ours grizzly, G-R-I-2-Z-L-Y. Tout à coup, par une belle nuit de septembre, l'Alaska se figea. Un coup de froid terrible effaça les belles couleurs de l'automne. Le paysage se réveilla triste et sans vie. Seules les montagnes avaient un air de fête avec leurs belles capes de neige. La compagnie aérienne de Joseph Grumman connaissait des journées chargées. L'hiver était tout proche maintenant, les colons et les villages demandaient des vivres. Le Junker, ainsi que les deux Norsemen, avaient été équipés de flotteurs et les appareils bondissaient comme des sauterelles sur les fleuves et les lacs. Les journées étaient courtes et à 5 heures, on n'y voyait plus assez pour voler. John pilotait le Junker. Il emportait presque 2 fois la charge d'un Norseman. Nels Swanberg l'accompagnait pour aider au déchargement. Le vieux chercheur d'or était enchanté. Il était conquis par l'aviation comme un gamin et ne se lassait jamais d'indiquer les endroits qu'il connaissait. « Tiens, regarde cette pointe sur le lac là-bas, » dit-il un matin, alors qu'il volait vers la petite boutique de P.T. Anderson. P-E-T-E, plus loin A-N-D-E-R-S-O-N, au bord du lac Tonzonan, T-O-N-Z-O-N-A-N. Un jour d'automne, j'y ai trouvé 2 élans mâles qui n'avaient pas pu démêler leur bois après un combat. L'un était mort et l'autre, terriblement amaigri, restait à genoux sur la mousse, soudé au cadavre de son rival. Je l'ai tué, bien entendu, et j'ai détaché les bois en les sciant. Plus tard, je les ai vendus à Fairbanks pour $20. C'était peu payé, car ils pesaient plus de 40 kilos et je les avais portés sur le dos pendant 12 jours. John fit un signe de tête et jeta un regard furtif sur la petite pointe qui s'étendait au-dessous d'eux comme un long nez couleur de rouille. Mais ses pensées étaient ailleurs. Il venait de recevoir une lettre de ses parents. Il lui écrivait que la grande compagnie aérienne Northwest Airlines lui avait réservé une place dans un stage pour pilote de ligne qui commençait à San Francisco le 1er novembre. Il devait envoyer sa réponse au plus tard le 15 octobre et on était le 9. Il ne lui restait donc plus beaucoup de temps pour prendre une décision. « Dis, Nels, » questionna-t-il tout en faisant remonter son avion de quelques centaines de mètres pour éviter une crête de montagne. « Que ferais-tu à ma place ?»« Oh, il m'est difficile de te répondre, John. Après avoir vécu en Alaska pendant 56 ans, on manque d'impartialité. Ou bien on est ensorcelé, ou bien on déteste le pays. Si on est ensorcelé, on reste. » John fixait l'horizon. « Le problème n'est pas tout à fait aussi simple pour moi que pour toi, Nels. Tu n'as pas de parents qui ont préparé ton avenir. » Les miens veulent me voir à bord d'un DC-6 ou d'un DC-7 en uniforme de pilote de ligne pour être sûr que j'ai un job stable et bien rémunéré. Un pilote de brousse ne sera jamais pour eux qu'un romanichel de l'air. Il roule sa bosse jusqu'au jour où il fonce contre une montagne et se tue. Ah ! Vive les romanichels en tout cas ! Dis John, tu as raison. Nous sommes tous les deux des vrais romanichels. Mais toutes les célébrités ont un peu de sang romanichel dans les veines. Je ne peux pas t'imaginer pilotant un de ces autobus à 4 moteurs à 6 ou 7 000 mètres au-dessus de la mer. Tu n'as qu'à appuyer sur des boutons pour que tout aille bien. Où est l'aventure dans tout ça? On doit s'embêter à mourir. John déplia la carte et constata qu'il avait le lac Tonzonan juste devant lui. Il me reste quelques jours pour réfléchir, dit-il. Certes, je suis conquis par l'Alaska, mais je n'oublie pas mes devoirs envers ceux qui m'ont élevé. Un beau jour, je veux pouvoir me marier, fonder une famille. Qui voudrait épouser un pilote de brousse? Mais tu trouveras sûrement une femme assez intelligente pour comprendre cette vie de rêve, dit Nels. Je croyais que Barter Hayes et Viola t'avaient dégoûté à tout jamais du mariage. C'est sûrement une bonne chose de se marier, John, mais un homme digne de ce nom se porte bien mieux sans une femme continuellement sur ses talons. Je ne veux pas t'influencer. Tiens, voilà la boutique de Pete. le lac Tomsona étalait au-dessous d'eux sa surface bleue et accueillante. Ils aperçurent la boutique de Pete Anderson. C'était une petite cabane en rondin, recouverte de tourbe. À des dizaines de kilomètres à la ronde, il n'y avait pas d'autres habitations. Le commerce y prospérait pourtant. Les peaux-rouges tendaient des milliers de pièges à gelinotte dans ce secteur, et ils profitaient toujours de l'occasion pour faire des achats chez Pete. Nos aviateurs tournèrent au-dessus de la maison et virent la fumée monter de la cheminée. Mais ils ne distinguaient pas la silhouette de Pete. D'habitude, il se précipitait dehors dès qu'il entendait un avion, faisait de grands signes avec une écharpe rouge comme une langue de baleine. Nell se découvrit enfin juste avant d'amerrir sur le lac. Il était occupé à une besogne qui, même pour un habitant de l'Alaska, n'est pas banale. Debout, au milieu d'un marais, il visait un ours grizzly qui, dressé sur ses pattes de derrière, se livrait à des gestes désordonnés. On aurait dit qu'il chassait des mouches. En voyant l'avion, il retomba sur ses quatre pattes et s'en alla en boitant. Mais à l'instant même où le Junker touchait les flots, une fumée bleue sortit du fusil de Pete et l'ours roula au milieu des mottes de terre. Quand les aviateurs descendirent à terre, Pete était sur la rive. Grand et lourdeau, avec des joues comme des pommes, il faisait penser à un enfant qui aurait grandi trop vite. Riant de toutes ses dents et tenant à la main un fusil qui semblait dater de l'époque des mousquetaires, Pete donnait une terrible impression de force.
« Oh les gars !» dit-il. « J'avais peur que vous ne fassiez fuir mon gibier. Sorti pour mettre mon linge à sécher, je l'ai rencontré au coin de la maison. » Je lui ai lancé mon seau à la tête et je me suis précipité pour chercher l'escopette. Je n'ai trouvé que deux cartouches, aussi ai-je dû les économiser. L'ours m'attendait là-bas, sur le marais. Le premier coup l'a atteint à la tête, mais il a un crâne si épais qu'il a été seulement étourdi. C'est la raison pour laquelle il titubait comme un boxeur groggy. Le second coup l'a frappé derrière la nuque et le voilà définitivement calmé.
Ils déchargèrent de l'avion des paniers de beurre, des sacs de farine et de sel, des raquettes, des centaines de pièges, des munitions, des bas, des chemises, des sous-vêtements, et pour finir, une belle lampe à pétrole. C'était un cadeau de Joseph Grumman.
« Il était patent, vieux Joseph, » nasilla Pete. « Il n'oublie jamais les copains. Mais cette fois-ci, j'ai quelque chose à lui donner en échange. Je lui donne l'ours. Joseph a toujours désiré un spécimen exceptionnel pour l'empailler. » Celui-ci doit peser largement 500 kilos.
Il alla chercher des cordes pour traîner l'ours. Il y avait à peine 100 mètres à parcourir entre l'endroit du marais où gisait l'animal et la rive. Ils mirent pourtant trois quarts d'heure pour charger le gaillard dans l'avion. Il était encore chaud et de la buée lui sortait de la gueule quand il le tirait par les pattes de devant. « Est-il vraiment mort ?» demanda John, pas très rassuré. Il m'a semblé le voir bouger. Pete renversa la tête en arrière et partit d'un rire sonore.
Il n'existe pas d'ours plus mort que celui-là, mon petit. Ce n'est pas le premier ours que j'expédie dans l'autre monde, sois tranquille. C'est peut-être le centième, je ne sais pas au juste. Mais un rouleau compresseur comme celui-ci garde sa chaleur pendant plusieurs jours après avoir été tué. Et de la buée lui sort de la gueule aussi longtemps qu'il reste dans ses poumons de l'air plus chaud que l'air ambiant. Il peut même grogner si on lui appuie sur la poitrine.
Pete se mit à califourchon sur la bête et pesa de tout son poids. Un grognement sinistre sortit de la gueule de l'ours. Nels, fasciné, en resta bouche bée. John, lui, se sentait mal à l'aise. Bien qu'ayant entendu toute une série d'histoires sur les ours sanguinaires qui démolissent des maisons et déchiquettent des hommes, il aimait ces animaux pour leur ressemblance un peu grotesque avec l'homme. Un ours pourchassé, pensait-il, avait naturellement le droit d'être de méchante humeur, exactement comme un homme en danger de mort.
« J'ai laissé mon fusil à la maison, Pete, » dit Nels, « mais si tu garantis... »« Vous en faites des histoires, » grommela Pete, un peu vexé dans son amour propre de chasseur. « Je veux bien remonter chercher mon fusil et lui donner le coup de grâce, puisque vous êtes froussard à ce point-là. »«
Nous te croyons, » dit John. Il regarda sa montre. « Du reste, je préfère qu'on ne tire pas dans l'avion de crainte qu'une balle ne s'égare dans un réservoir d'essence. » »« J'ai trop peur de rentrer à pied. Nous devons partir maintenant. Il est déjà 11 heures et nous avons encore un transport pour cet après-midi. Au revoir, Pete. Bon hiver. Au revoir, mes petits amis, dit Pete en souriant. Mon bon souvenir à Joseph Grumman. Envoyez-moi une carte postale si jamais, par hasard, l'ours se réveille. Mais dans ce cas, je veux sa signature comme preuve, sans quoi je ne vous croirai pas. Ils attachèrent leurs ceintures et décollèrent. En décrivant un cercle au-dessus de la cabane, ils virent Pete agitant sa longue écharpe rouge. La petite cabane solitaire semblait encore plus isolée avec ce petit bonhomme devant la porte. On aurait dit l'Alaska tout entier réduit à la dimension d'une coque de noix. Pete me fait pitié, dit Nels, quand ils eurent atteint leur altitude de vol et que les moteurs furent moins bruyants. Comment cela ? Demanda John. Moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air heureux. Bien sûr qu'il l'est, mais ce n'est pas ça. Il est trop bon. Il ne peut pas supporter de voir un homme souffrir. Les peaux rouges l'exploitent. Il leur donne les marchandises à crédit et il n'est jamais payé. Pete est actuellement pauvre comme Job, mais il persiste dans sa générosité. Un jour, il fera faillite et perdra sa cabane et tout ce qu'il possède. Voilà comme les choses se passent quand on est trop bon en Alaska. Mais c'est un excellent chasseur, objecta John. La chasse doit lui procurer quelques revenus. Oh, certes, John. Mais là encore, c'est la même histoire. Cet ours, par exemple, lui aurait fourni de la viande pour tout l'hiver. Et qu'en fait-il ? Eh ben, il en fait cadeau pour remercier Joseph de sa lampe, qui vaut 100 fois moins, et il n'est pas sûr de trouver un autre ours avant l'hiver. Ils vont hiberner d'un jour à l'autre, et on n'en verra plus un seul avant le mois de mai. Les moteurs poursuivaient leur conversation sur un ton calme et régulier. Sans faillir une seconde, ils maintenaient leur voix sur un registre de ténor. Pas un raté. Ces moteurs avaient de l'entraînement et se plaisaient en Alaska. Se plaisaient en Alaska. John eut un coup au cœur en pensant que bientôt il devrait quitter ce pays, quitter les hauts plateaux, ces hommes libres et originaux et un travail qui lui apportait tous les jours quelque chose de nouveau. Quitter l'aventure et la liberté pour un job routinier et sans surprise. Sa pensée fut interrompue. Nels s'était figé lui aussi. Ils avaient entendu la même chose. Un râle dans lequel s'exhalaient mille tourments, un grognement sinistre et sauvage couvrant le bruit des moteurs. Un seul regard dans le rétroviseur leur suffit. L'ours s'était réveillé d'entre les morts. Il dressa la tête, souleva sa poitrine et se traîna dans la direction de la cabine du pilote. Ses griffes grinçaient et ses crocs brillaient comme des couteaux. John et Nels voyaient ses yeux injectés de sang étincelés comme des petits volcans pleins de haine et de douleur. La scène était si surprenante que tout d'abord la raison se refusait à l'admettre. Ils étaient pétrifiés. Comme dans un rêve, John sentait le manche sauter entre ses doigts dans les trous d'air. Il ne pouvait pas quitter sa place, pas un instant lâcher le manche qui commande toutes les manœuvres de l'avion. Un paysage sauvage et accidenté se déroulait au-dessous d'eux. Des crêtes pointues couvertes de neige, de sombres ravins. Pas un seul mètre carré pour atterrir. Et McGrath était encore à 50 minutes de vol au moins. Un nouveau grognement infernal tira John de son état d'hébétude. À ce moment-là seulement, il se rendit compte que Nels avait quitté sa place. Un regard dans le rétroviseur lui montra le vieux qui, debout, le couteau à la main, affrontait l'ours. John le voyait trembler. Il n'avait pourtant pas l'intention. « Nels !» Le cri partit une fraction de seconde trop tard. L'ours avait attaqué avec la promptitude de l'éclair. Se rejetant en arrière, Nels avait glissé sans avoir eu le temps de se servir du couteau qui heurta la paroi et glissa au fond de la cabine. Le grizzly, masse énorme de poils et de griffes, fondit sur Nels. John entrevit le temps d'un éclair, le visage pâle et figé du vieux. Il tira le manche aussi loin que possible en arrière. Le Junker se cabra, le nez en l'air. Les moteurs sifflaient. Le bruit d'une lourde chute fit trembler l'avion tout entier. C'était le grizzly qui perdait pied
et heurtait la paroi séparant la cabine de la soute à bagages. Bien qu'instantanément bosselée comme du papier et de l'aluminium, la paroi tint bon. La ceinture de Nels, qui s'était coincée, empêcha le vieux de suivre l'ours dans sa chute. John repoussa le manche, donna des gaz et remit l'appareil dans une position moins inconfortable. À quatre pattes, Nels vint vers lui. Une vilaine blessure partait de son oreille gauche et lui traversait le cou et la poitrine. Le sang tombait goutte à goutte sur le plancher. S'effondrant dans son fauteuil, pâle comme un mort, Nels mit les mains devant son visage et s'évanouit. John serra le manche entre ses genoux, sortit la boîte de pharmacie de la caisse à outils et fit un pansement rapide. Il utilisa toutes les compresses, tous les rouleaux de gaz et de sparadrap et réussit ainsi à arrêter l'hémorragie. Il lui fallait surveiller en même temps les coups de roulis de l'avion, car il volait au-dessus d'un contrefort des montagnes Kuskokwim, Kuskokwim. Soudain, un nouveau grognement secoua la carlingue. Le grizzly remit sa chute, rampait dans la direction de la cabine du pilote. Cette fois-ci, John n'osa pas cabrer l'appareil. Nell s'était pelotonné dans son fauteuil et il lui était impossible de l'attacher. Il prendrait le même chemin que l'ours si John refaisait la manœuvre. « Allô, McGrath ! Allô, McGrath ! SOS de John ! Tu m'entends, Hassel ? À toi !» La voix réconfortante du radio se fit entendre. John fit le point de la situation. Hassel ne mit pas longtemps à comprendre de quelle façon on pouvait leur venir en aide. Il était seul à McGrath avec Joseph Grumman. Ils partiraient tous deux à l'instant même à la rencontre de John avec le Piper Cub en emportant une carabine pour tuer l'ours. C'était l'unique solution. L'atterrissage au-dessus des montagnes Kuskokwim ne pouvait en aucun cas être envisagé. John regarda l'heure. Avec un vent arrière, le Piper Cub serait près de lui dans 30 minutes environ. 30 minutes, avec un ours sur la nuque, une éternité. Il donna le maximum de gaz au moteur et regarda dans le rétroviseur. Il ne vit que le dos de l'ours. Celui-ci se retournait doucement. Oui, il était toujours là, tout près de la cabine de pilotage. Visiblement, il essayait de retrouver ses forces. Dans ses yeux rouges et furieux, John lisait tant de souffrance et tant de haine qu'il frissonna. Il reprit courage en pensant à l'ours qui devait souffrir atrocement. Revenir à la vie pour se retrouver enfermé avec deux ennemis dans une cage de fer, il y avait de quoi rendre furieux le plus aimable des ours. Mais on ne pouvait pas revenir en arrière. Le jeu ne pouvait pas être stoppé. Il fallait le poursuivre jusqu'à sa conclusion, qui serait forcément tragique. L'ours se mit de nouveau à râler. John entendait ses griffes gratter le plancher. Le monstre ébouriffé s'approchait de plus en plus. John ne le voyait pas, mais il l'entendait. Il n'osait plus se retourner, ni même regarder dans le rétroviseur. La respiration haletante et chaude de la bête effleurait sa nuque. L'ours se trouvait à un... peut-être 2 mètres derrière lui. Une bête qui pouvait l'écraser d'un seul coup de patte. Heureusement pour John, la bête avait aussi peur que lui et sa vitalité était fortement entamée par le choc et par une importante perte de sang. John se sentit trempé de sueur des pieds à la tête. Ses mains ne tenaient plus aussi fermement le manche. De temps en temps, un frisson partait de ses épaules et parcourant ses bras faisait vibrer l'avion. Les secousses semblaient troubler l'ours. Il se ramassait pour attaquer, puis paraissait oublier tout à coup ce qu'il avait projeté de faire. Quand John s'en aperçut, il imprima volontairement à l'appareil de rudes vibrations. Quelqu'un l'appelait dans l'écouteur. Cela lui fit l'effet d'une caresse sur le front. « Allô, John ! Allô, John ! C'est ton oncle qui te parle. Nous serons bientôt près de toi. Tiens bon, mon garçon. Nous sommes au nord du mont Fork, F-O-R-K. Tu dois voir cette montagne. Nous volons à 1200 mètres. Donne-nous ton altitude et ta position. À toi. » Faisant un gros effort, John réussit à approcher le micro de ses lèvres. Mais il mit plusieurs minutes avant de pouvoir parler. Il sentait ses lèvres remuer, mais n'émettait aucun son. Quand enfin il put s'exprimer, ce ne fut qu'un murmure. « Allô, mon oncle, c'est John. Je serai près du mont Fort dans quelques minutes. Je vois la montagne. Je monte à 1250 mètres. Vous me verrez bientôt. Garde le contact. Ne m'abandonne pas maintenant, mon oncle. » Ces derniers mots se perdirent dans un sanglot. La voix de l'oncle
répondit calme et tranquille. Tâche d'incliner ton avion sur la droite, John, autant que tu le pourras. Les ours détestent de se trouver sur un plan incliné. Et souris, mon gars. Il arrive souvent de petites mésaventures en Alaska, comme dit Alan. On peut se trouver dans des situations bien pires. John se demandait ce que pouvaient représenter des situations bien pires. Il suivit le conseil de son oncle et vola en inclinant l'appareil au maximum. L'ours commençait à glisser et grattait frénétiquement le plancher incliné. Son souffle haletant et rauque se transforma en un hurlement sauvage. Brusquement, John sentit son fauteuil reculer de quelques centimètres. Il faillit lâcher le manche et dut se pencher en avant de toutes ses forces. L'ours avait saisi un montant du fauteuil et se relevait, la gueule grande ouverte. John sentait maintenant son souffle sur sa nuque, comme une bouffée de vapeur brûlante. Il s'assit sur le bord du fauteuil, le plus loin possible de l'animal. Il était plié en deux sur le manche. Cette position lui ankylosait bras et genoux. Un nouvel appel lui parvint. « Nous te voyons, John. Donne moins de gaz et baisse les volets de tes ailes. Tu vas trop vite pour nous. Nous faisons un virage et revenons parallèlement à toi. Où est-il, ton ours Martin ?»«
Sur mon dos, mon oncle. En tout cas, pas bien loin. »
John vit le Piper Cub rouge passer à toute allure en faisant un long virage. Il coupa les moteurs latéraux et abaissa le manche des commandes. Le Junker ralentit et commença à perdre de l'altitude. Bientôt sa vitesse fut insignifiante. « Allô, John, nous montons à côté de toi, sur ta gauche. Recouvre ta tête avec le capuchon de ton bleu et mets des lunettes. Tu peux recevoir quelques éclats de vitre quand je tirerai. » Je te préviendrai quand j'aurai l'animal dans ma ligne de mire.
Attention à Nels, mon oncle. Il est couché dans le fauteuil, juste derrière l'ours.
John vit le Piper Cub prendre l'air comme un grand oiseau rouge. Il volait juste au-dessus de l'aile gauche du Junker. Il entrevit son oncle derrière le long canon d'un fusil qui pointait à travers la vitre baissée. Hassel, lui, tenait le manche fortement penché en avant et suivait ainsi le moindre mouvement du Junker. Le Piper monta légèrement et avança de quelques mètres. Il n'était pas possible de trouver un meilleur angle pour tirer. « Allô, John, peux-tu te pencher un peu en avant, encore un tout petit peu ?» L'ours aperçut le Piper Cub. Il releva la lèvre et avec un ricanement terrible voulut passer par-dessus le fauteuil pour atteindre la nuque de John. Son arrière-train paralysé était trop lourd et il ne parvenait pas à l'entraîner. Un hurlement d'impuissance fit trembler les vitres de la cabine. « allô John, voilà, je le tiens dans le guidon de mon fusil. Reste immobile, absolument immobile, et ferme les yeux 2 secondes seulement. » Deux coups de feu très rapprochés firent tomber sur lui une pluie d'éclats de verre. Le troisième coup mit un point final à cette tragédie. Derrière lui, le hurlement s'était transformé en un râle rauque. La bête lâcha le dossier du fauteuil et s'effondra. Elle donna encore quelques coups de griffe sur la tôle, mais bientôt même, ce bruit s'évanouit. L'ours était bel et bien mort.
« Allô, John, redonne du gaz, vite, tu tombes comme une pierre !»
John s'éveillait comme d'un mauvais rêve. Il tira le manche. Les deux moteurs latéraux reprirent leur régime normal. L'avion grimpait. L'automatisme de ses mouvements permit à John de retrouver un certain calme.
« Allô, John, en pleine forme maintenant ?»« Ça va à merveille, mon oncle. Et merci, tu as un fameux coup de fusil. »«
C'est pas le premier ours que je tue, tu peux me croire. Mais c'est le plus grand. Donne plein gaz maintenant. » Nous avons prévenu l'avion ambulance. Pars en avant et installe Nels dans mon bureau. Alan et Aylan auront déjà atterri quand tu arriveras. Et n'oublie pas de mettre la cafetière sur le feu, tu seras gentil.
John fit donner à son avion la puissance maximum. Nels marmotta quelque chose et remua dans son fauteuil. Une boucle du fleuve Kuskokwim brillait à l'horizon. McGrath se trouvait là. juste à sa droite. John n'avait jamais été aussi heureux de rentrer. L'atterrissage forcé d'Alan. On était le 15 octobre. La neige tombait à gros flocons et le sol était déjà recouvert d'une épaisse couche blanche. Joseph Grumman avait décidé que les flotteurs des trois avions de transport seraient remplacés par des skis dès le lendemain matin. Nell Swanberg se trouvait à l'hôpital d'Anchorage depuis sa rencontre avec l'ours de Pate. Il était déjà assez bien remis pour que le médecin eût dû un jour le faire rechercher en ville et le ramener presque de force à l'hôpital. Le directeur venait de télégraphier à McGrath pour demander que l'on vînt reprendre au plus vite ce chercheur d'or débordant de vitalité. John devait donner, c'était le dernier délai, sa réponse à la Northwest Airlines. Serait-il oui ou non pilote de ligne? Il entra dans la salle de radio, un message à la main. Sa tignasse blonde, pleine d'huile, pendait sur ses sourcils comme un vieux toit de chaume. « Tu as pris une décision ?» lui demanda Hassel, sans se retourner. « J'ai le télégramme à la main, » répondit John. Il soupira et avala sa salive. Hassel le prit et le plaça dans une chemise à côté de l'émetteur. « Je l'enverrai après le rapport météorologique, » dit-il sèchement. « Alors tu pars ?»«
Je crois que ça vaut mieux, » dit John en baissant les yeux.
Un appel les interrompit. Il venait d'Alan, qui rentrait de Stoney River, S-T-O-N-Y, plus loin, R-I-V-E-R, avec son Norseman. Sa voix était calme. Il annonça pourtant qu'un tuyau d'huile fuyait et qu'un de ses moteurs prenait feu. Il n'avait pas le temps de choisir un emplacement pour atterrir. Il lui fallait se contenter d'un marais gelé à 1 kilomètre à peine. Il avait donné sa position et s'était mis à tousser très fort. Une épaisse fumée envahissait sa cabine, avait-il ajouté entre deux quintes de toux. Puis il avait conclu, « Faut bien que les choses se compliquent de temps en temps. » La radio s'était tue. John était déjà sur le pas de la porte. « Tu pars seul ?» demanda Hassel. « Oui, je prends le Piper Cub. Nous venons d'y adapter des skis. » Joseph Grumman et Highland Wheeler se trouvaient à Anchorage avec le Junker. Ils étaient allés chercher de l'essence, des pièces détachées, et Nels, si toutefois celui-ci était encore à l'hôpital. Il devait rentrer avant la tombée de la nuit. Il était 3h30 et il ne serait pas là avant au moins 1h. John décolla de la piste numéro 1 au milieu d'une violente bourrasque de neige. Monsieur Alaska, enfoui sous un tas de couvertures et toujours fidèle à son poste, lui fit un grand signe. C'était le plus heureux des présages et John se sentit aussitôt de meilleure humeur. Le lieu de l'accident était à une bonne heure de vol au sud-est de McGrath. John suivit le fleuve West Fork et ensuite une petite crête dans la direction du sud. La visibilité était de plus en plus mauvaise et le crépuscule commençait à effacer les contours du paysage. Fin de la première face de la cinquième cassette, page 170, pilote de l'Alaska, par K.A. Schwarzkopf.